RFI.
Mondial Sport, Éric Manrut.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Au sommaire ce soir du football, bien sûr, avec le sacre de Manchester City en Coupe de la Ligue, tous les résultats européens, le point en Afrique sur la troisième journée de la Coupe de la Confédération, les résultats du tirage au sort de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, ça intéresse notamment le Mali et le Sénégal. Coupe du Monde toujours, mais de basket, la Côte d'Ivoire joue ce soir sa qualification pour le rendez-vous chinois. Nous irons à Abidjan, on évoquera également la prochaine Africa League, soutenue par la NBA. Au sommaire encore, les premiers coups de pédale sur le tour du Rwanda et du saut à la perche. Voilà, Mondial Sport avec Alice Ménard et Jean-Philippe Thury aux manettes. On va à Londres pour commencer.
Sterling scores! And Manchester City win the first silverware of the season!
Le premier trophée de l'année en Angleterre est donc pour Manchester City. À l'issue d'une finale à rallonge, les Citizens sont conservés leur trophée de la Coupe de la Ligue à Wembley, une victoire contre Chelsea au tir au but 4-3, Ryan Sterling marquant le pénalty du sacre. On vient de l'entendre. Tom Williams, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Vous êtes notre correspondant en Angleterre. Là, on peut dire que cette finale a été plutôt soporifique. 0-0, prolongation incluse. Une séance de tir au but tout de même haletante, marquée juste avant. Racontez-nous par une scène vraiment étonnante.
Oui, une scène hallucinante même en fin de prolongation à Wembley, alors que les tirs au but se profilaient. Kepa Arrizabalaga, le jeune gardien espagnol de Chelsea, a refusé d'être remplacé par son entraîneur Maurizio Sarri, qui a voulu mettre Willy Caballero, ancien de City et spécialiste dans l'exercice. C'était donc avec Arrizabalaga dans les buts que Chelsea a abordé les tirs au but. Et c'est City qui a gagné, après des ratés de Jorginho et de David Luiz. Un deuxième Coupe de la Ligue de suite pour City et Pep Guardiola, qui reste en course pour un quadruplé historique.
En revanche, pour son homologue à Chelsea, Maurizio Sarri, ça ne s'arrange pas, même si bon, le match des Blues n'a pas été mauvais.
Oui, les Blues ont chuté à la sixième place en championnat suite aux défaites contre Arsenal, Bournemouth et une humiliation par 6-0 face à City il y a 2 semaines. Sarri a été vivement critiqué par la suite dans les médias britanniques. Il a même été conspué par ses propres supporters. L'Italien a resserré ses lignes pour la réunion avec City à Wembley, avec Eden Hazard en faux neuf, avec les ailiers très bas en phase défensive. Et les Blues ont produit quelques jolies séquences de jeu. Mais avec cette défaite et surtout avec le comportement d'Arrizabalaga, les méthodes de Sarri vont rester sous le feu des projecteurs encore un petit peu.
Voilà pour la finale de la Coupe de la Ligue, mais on jouait en Première Ligue quand même ce week-end, 27e journée. 2 matchs ce dimanche, l'un très attendu, le choc entre 2 ennemis du football anglais à Old Trafford. Manchester United recevait Liverpool, les Reds qui reprennent la tête du classement au détriment de City à la faveur de leur résultat nul 0-0 à Old Trafford. Bon, un point pris, mais sans vraiment la manière.
Hein. Oui, malgré les blessures rapides de plusieurs joueurs côté Manchester United, Liverpool n'a pas pu profiter. United a perdu Nemanja Matic sur blessure avant le match et puis et de façon assez incroyable, on a vu Ander Herrera, Juan Mata et Jesse Lingard sortir avant la pause, tous avec des blessures musculaires. Malgré tout ça, Liverpool a totalement manqué d'idées en attaque et n'a cadré qu'un seul tir pendant les 90 minutes. Les hommes de Jurgen Klopp ont tout de même pris un avantage d'un point sur City en tête du tableau et de 6 points sur Tottenham, battu 2-1 à Burnley samedi.
Des blessures donc du côté de Manchester United qui donc s'en tire plutôt bien, on va dire, avec ce résultat nul. Mais bon, la conséquence, c'est que pour Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Man United, il voit son infirmerie bien se remplir.
Oui, United a vraiment bataillé pour préserver ce nul et a même procuré plus d'occasions que Liverpool. Mais oui, à 10 jours du match retour contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et avec Paul Pogba suspendu et Anthony Martial blessé aussi, c'est un United sérieusement diminué qui risque de se déplacer à Paris.
Un point de gagné donc pour United, mais une place de perdu à l'arrivée au classement après la victoire aujourd'hui d'Arsenal contre Southampton 2-0.
Oui, Arsenal a alterné le bon et le beaucoup moins bon depuis la fin de l'année dernière. Et aujourd'hui, c'était le bon. Les hommes d'une Emery ont battu Southampton 2-0 grâce au but d'Alexandre Lacazette et d'Henrik Mkhitaryan. Arsenal se trouve maintenant quatrième avec un point d'avance sur United avant le derby face à Tottenham le week-end prochain.
Alors l'un des événements également aujourd'hui en Angleterre du côté du championnat, eh bien c'est le licenciement de Claude Puel, viré, il n'est plus l'entraîneur de Leicester après 16 mois sur le banc. Pourquoi ça n'a pas marché pour Claude Puel chez les Foxes?
Oui, bah Claude Puel, il a connu quelques résultats impressionnants avec Leicester, notamment des victoires successives contre Chelsea et Manchester City fin décembre. Mais ses tentatives de faire de Leicester une équipe de possession, contrairement à une équipe de contre, n'ont pas vraiment été au goût de ses joueurs ni des fans. Et après 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, il a fini par perdre le soutien de ses dirigeants aussi.
Le groupe est jouable, apparemment, c'est un style.
Merci, merci, merci Tom Williams. On s'est un peu perdu, il y a eu des interférences sur la ligne. D'ailleurs, pour en revenir à cette finale de la Coupe de la Ligue, à l'instant, on voit que Maurizio Sarri vient de s'exprimer pour dire que l'incident avec son gardien Kepa était en fait un grand malentendu. L'entraîneur de Chelsea croyait vraiment que son gardien était blessé. Allez, thank you Mr. Tom Williams. Good evening à London. Et on poursuit notre tour d'Europe en enchaînant avec l'Espagne. Fin du 25e épisode de la Liga. L'Atlético Madrid reste deuxième à toujours 7 longueurs du Barça. À domicile, les Colchoneros sont battus Villarreal 2-0, but de Morata et de Niguez. Le Real Madrid est sur le point de s'imposer à Levante. On est dans les arrêts de jeu et le Real mène 2-1. Si le score en reste là, le Real Madrid resterait troisième à 9 longueurs du FC Barcelone. En Italie, 25e journée également. La Juventus confirme sa forme plutôt moyenne en ce moment. Les Turinois l'ont emporté chichement chez le 18e Bologne. Un seul but marqué par Paulo Dybala, la vieille dame qui reste intouchable avec quand même 13 longueurs d'avance sur son dauphin napolitain qui est allé écraser tout à l'heure Parme 4-0. L'Inter de Milan est toujours troisième. C'est la fin de son match à la Fiorentina. Un match assez fou avec 11 minutes de temps additionnel. Pour l'instant, le score est de 3 buts partout. La Bundesliga enfin 23e acte. Le Borussia Dortmund a repris le commandement après son difficile succès contre le Bayer Leverkusen 3-2. 3 points d'avance sur le Bayern Munich. La Ligue 1 française, maintenant 26e journée. Marseille perd sa 4e place après son nul à Rennes, un but partout. Rennes devient 6e après son succès à Montpellier, plutôt Reims. Reims devient 6e après son succès à Montpellier, 4-2. Nantes se donne de l'air grâce à la victoire sur Bordeaux 1-0. Et puis Caen a pris un point à Toulouse, un but partout. Un dernier match se joue actuellement, c'est Lyon qui joue à Monaco et Monaco mène 2-0. Il reste combien avec mes petites lunettes? J'ai du mal à lire. Martin Guez, bonsoir.
Bonsoir Eric, un petit quart d'heure et Lyon a raté un penalty.
Voilà, bah, ça nous fait la transition toute trouvée. On va parler de foot africain.
Le groupe est jouable.
Décidément, ces interférences.
On s'y retrouve, c'est bon.
Décidément. Comment ça va, Martin?
Ça va et vous, Eric?
Alors, on va parler de quoi? Eh bien, de la troisième journée de la Coupe de la Confédération qui se... Non, vous voulez pas.
Alors, je préférais qu'on commence par le tirage au sort, peut-être,
raison,
de la Coupe
plus,
du Monde des moins de 20 ans. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Honneur aux jeunes, Eric. Et honneur aux récents vainqueurs de la dernière CAN des moins de 20 ans. Donc, le Mali fixé sur son sort pour la prochaine Coupe du Monde. Le tirage au sort de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans qui a eu lieu ce dimanche en Pologne où se déroulera la compétition à la fin du mois de mai. Et les champions d'Afrique, Eric, et ben, les champions d'Afrique maliens héritent d'un groupe de choix avec l'Arabie Saoudite, championne d'Asie, la France, championne du monde en 2013, et puis le Panama, mais un tirage qui n'inquiète pourtant pas trop Birama Konaté, le sélectionneur adjoint des Aiglons qui est confiant en sa jeune garde.
Le groupe est jouable, apparemment c'est un style, la vivacité, la physique qui est là. La France aussi a un football à peu près comme le football malien parce qu'on a les mêmes racines, les mêmes mentalités, les mêmes styles de jeu à peu près. Quant à l'Arabie Saoudite, je pense qu'on a rencontré cette même équipe de l'Arabie Saoudite qui est dans nette progression. C'est une équipe qu'on a rencontrée deux fois. En match amical, ils nous ont gagné gagné, mais on était en pleine préparation avant d'aller à la CAN. Et je pense qu'on a notre mot à dire. Quand on prend un pourcentage, je pense qu'on a 70 à 80% des chances de sortir de cette poule. Et d'autant plus que le Mali est à sa 7e participation à une mondiale. Et le Mali a gagné 2 fois le titre de meilleur joueur de cette même mondiale et 2 fois le titre de meilleur gardien. Je pense qu'on a notre mot à dire. L'espoir primaire de l'Afrique, c'est nous d'abord qui sommes champions d'Afrique. Et je pense qu'on ne va pas déshonorer et le peuple malien et l'Afrique.
C'est souvent des difficile.
Propos recueillis à Bamako par Mamadou Kaloga.
Le Sénégal, lui, hérite du pays hôte polonais.
Oui, tout à fait. Les Lyonceaux, finalistes malheureux des 3 dernières CAN, qui se retrouvent donc avec la Colombie, Tahiti et la Pologne. Donc, Eric, vous l'avez dit, jamais facile d'affronter l'hôte des lieux, nous explique le sélectionneur Youssouf Dabo.
C'est souvent difficile de partager la même poule avec le pays organisateur, parce que voilà, c'est qu'ils auront peut-être certaines faveurs pour essayer de passer. Après, il y a la Colombie qui est souvent pas mal en petite catégorie. Après, il y a le Tahiti, le grand inconnu pour nous. Et ça reste jouable. Il faudra qu'on arrive là-bas avec beaucoup de confiance, comme on l'a eu avant la CAN. Et ça, ça dépend de la préparation, parce que la préparation qu'on a eue avant la CAN nous a permis d'arriver là-bas, en tout cas, avec beaucoup de confiance. Et si on a une préparation similaire, là, on pourra voilà, évaluer notre niveau et ça va se jouer sur la confiance. Donc tout dépendra de la préparation, mais on a en tout cas les qualités nécessaires pour faire un bon tournoi.
Voilà pour le Sénégal. Le Nigeria, de son côté, affrontera le Qatar, l'Ukraine et les États-Unis, tandis que le 4e et dernier représentant africain, l'Afrique du Sud, jouera le Portugal, la Corée du Sud et l'Argentine.
Voilà, ça se jouera fin mai, début juin en Pologne. Football toujours en Afrique. Martin, Michel Legrand, on disputait, on y vient ce dimanche, la 3e journée de la Coupe de la Confédération.
Oui, on y vient, on y arrive, et ça continue de très bien se passer pour la renaissance de Berkane, déjà leader de son groupe après un nul et une victoire. Les Marocains se sont encore imposés face à un autre club du royaume chérifien. Après avoir disposé d'Agadir il y a 10 jours, Berkane a cette fois-ci frappé un très grand coup en s'imposant 4-2 sur la pelouse du Raja Casablanca, tout simplement le tenant du titre, grâce à un triplé de l'attaquant togolais Kodjo Fodo là-bas. Tout roule dans cette phase aller pour la renaissance, alors forcément l'attaquant burkinabé Alain Traoré a le sourire.
C'est une très belle victoire, on est très très content. Voilà, on avait à cœur de faire un très bon match ce soir. Mais en fait, on connaît bien les Rajas, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Tu vas les presser, tu les prives du ballon, ils ont du mal à défendre. Et nous, avec des joueurs rapides, avec des joueurs de qualité, on a su les mettre en danger. Et voilà, je pense que le coach il a bien étudié les matchs et nos plans ont fonctionné à merveille, c'est ça.
Bonne opération au classement. Vous êtes leader avec 7 points, 3 longueurs d'avance sur Agadir. À mi-parcours, c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Mais il faut rester prudent parce qu'on ne sait jamais. Mais il nous reste 3 matchs. Il faut prendre au minimum 2 points ou 3 points pour se qualifier.
Et puis dans l'autre rencontre du groupe A, Agadir est venu à bout des Congolais de la SO Auto Doyo. Victoire 2-1. Les Congolais qui terminent la phase aller à la 3e place, juste devant le champion sortant, le Raja Casablanca, désormais bon dernier.
On joue aussi en Tunisie, Martin, où se déplaçait le petit poussé burkinabé, Salitas.
Et oui, les nouveaux venus dans la compétition qui ont bien résisté. Les Ouagalais qui ont tenu en échec le leader du groupe, les Tunisiens du CS Faxien. Un nul 0-0 obtenu en plus à l'extérieur. Et à 10 contre 11, le milieu Élisée Demankel qui écope d'un carton rouge en milieu de seconde période. Les burkinabés qui se sont aussi vus refuser un but. Voilà qui fait beaucoup pour l'entraîneur adjoint en bas soit Traogo.
Un match de haut niveau, vraiment, les deux équipes se sont battues. Voilà, on a eu notre temps fort, ils ont eu leur temps fort. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi l'arbitre a refusé le but. Voilà, vraiment, c'est scandaleux en tout cas. Vraiment, je suis déçu. Voilà, je suis très déçu de ça. Voilà, une jeune équipe qui vient pour une première qualification, qui vient jouer la phase de poule. Vraiment, vraiment, c'est décourageant. C'est très, très décourageant.
Des propos recueillis par Gabriel Barois, Salitas qui est pour l'instant bon dernier du groupe B avec 2 points, tandis que ça va un petit peu mieux pour l'Étoile du Sahel, vainqueur des Nougou de Buzyn.
En revanche, le Zamalek du Caire n'avance toujours pas.
Et oui, le monument égyptien qui fait du surplace et qui occupe toujours la dernière place du groupe D après son nouveau nul 1-1 face au Petro de Luanda. Les Carottes n'ont que 2 petits points, tandis que les Kenyans de Gor Mahia dominent toujours cette poule après leur victoire 2-0 face au Nasser Athletic Hussein Dey d'Alger. Enfin, dans le groupe C, ce sont les Ambiens de Kana qui dominent grâce à leur succès. C'est 3-1 sur le dernier du groupe, les Ghanéens de la Chenti Kotoko. Suivent derrière Nkana d'autres ambiances du Zesco United et les Soudanais d'Al Hilal qui se sont neutralisés 1-0.
Voilà pour le football. Maintenant, bien, on va troquer les crampons pour des guidons. On parle cyclisme. Et direction le Rwanda, Martin Guez, aujourd'hui première étape du tour du même nom. 11e édition.
Tout à fait, le peloton qui s'est lancé pour la première fois ce matin et qui a tourné en rond autour de la capitale. C'est donc tout naturellement que nous retrouvons à Kigali notre envoyé spécial Thomas Saléger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Martin, bonsoir tout le monde.
Alors 78 coureurs au départ, on annonçait hier une grosse bagarre entre les meilleurs Africains et les équipes professionnelles européennes. Premier round à l'avantage des seconds.
Et oui, c'est un jeune Italien, Alessandro Fedeli, qui s'est imposé sur les hauteurs de Kigali devant un coureur encore plus précoce, le très talentueux Jacob Debesay de l'équipe d'Érythrée. Scénario classique pour cette mise en jambe, entre guillemets, bien sûr, de 112 km, une échappée rattrapée à l'entrée de Kigali. Au pied de la petite bosse finale, le peloton est groupé. Plusieurs coureurs se détachent dans les pourcentages. Et là, patatras, dans le dernier virage, les premiers font un tout droit. Ils finissent dans le décor ou sur le bitume. Fedeli, le filou, reste debout. Il gagne l'étape, le maillot jaune, bien sûr. Deux autres coureurs de son équipe, Delco, finissent juste derrière. Kasper Kevich, le polonais, est troisième. Joseph Areruya, le chouchou du public, quatrième. Pas mal pour une équipe parti avec seulement 4 éléments. Alessandro Fedeli.
C'est incroyable parce que la qualité de la course est une bonne qualité. Il y a l'équipe Astana, il y a Directory, il y a beaucoup d'équipes. Et nous avons seulement 4 coureurs, 3 et les 4, et c'est très bon, je pense.
Ça met quand même les responsabilités sur les épaules de votre équipe.
Bah, je n'ai pas très grande responsabilité parce que oui, aujourd'hui j'ai gagné, mais Joseph il est très fort, Kasper est très fort et Julien il est très fort. Et pour moi, il n'est pas très grande responsabilité. Aujourd'hui, je suis félix de ce résultat, mais je n'ai pas très grande responsabilité.
Voilà, décidément malin ce Fedeli. Il avance masqué, mais attention à lui. Beaucoup de suiveurs ici en pensent beaucoup de bien.
Et Alessandro Fedeli qui découvre d'ailleurs le Tour du Rwanda. Et il est loin d'être le seul.
38 bisous sur 78 coureurs au départ. Parmi eux, Simon Guglielmi, membre de l'équipe de France des moins de 23 ans, 6e aujourd'hui. Il le dit lui-même, il est ici d'abord pour l'expérience, pour l'aventure, pour ouvrir les yeux. Et il a été servi par cet incroyable public rwandais. Quand il en parle, c'est avec des frissons et en plus, c'est bien, ça s'entend.
Ah ouais, j'ai envie de dire, c'est comme le Tour de France, hein. Il y a du public, énormément de public sur le bord des routes. Je m'attendais pas à ça. Il paraît qu'il y a des étapes sans, il y a encore plus de monde, alors que déjà là sur le bord des routes, c'est ouais, la foule, ils adorent le vélo, donc c'est vraiment c'est incroyable quoi. On est poussé par la foule dans les montées. On arrive dans les villages, il n'y a pas un kilomètre sans qu'il y ait une foule au bord de la route. Ils ont une fois par an ça et je pense que ça leur fait plaisir autant que nous on se fait plaisir.
Et Thomas, ceux qui ont pris peut-être le moins de plaisir aujourd'hui, eh bien ce sont les Camerounais.
Déjà très loin, le premier du jour c'est Artus Stella, 55e à 1 minute 13 du vainqueur. Le capitaine de route Clovis Kamzong Abessolo est 69e. Il a souffert sur cette étape mais il garde le moral.
C'était très nerveux avec le virage et la dernière montée où les professionnels ont vraiment vissé à fond. Et je pense que nous, on a pu suivre, j'ai deux de mes collègues qui ont suivi le groupe jusqu'à l'arrivée, je pense.
Pour le Cameroun, l'objectif c'est bien figurer, peut-être des belles places sur des étapes.
Oui, des belles places et jouer aussi les étapes.
Pour vous, le Rwanda, c'est quand même un peu trop montagneux.
Oui, c'est montagneux. Je pense que ça, c'est ma 4e participation. Je connais le Rwanda et je veux donner le meilleur de moi-même pour faire les bons classements et finir ce tour du Rwanda.
Finir le tour, voilà, pas d'ambition démesurée pour les Camerounais. Et on leur souhaite bien sûr de remplir le contrat demain. Martin, cap au sud pour une nouvelle étape Caspat, 120 km entre Kigali et Houyé. On n'est pas encore dans le très dur, mais on y arrive très bientôt.
Eh bien, merci beaucoup Thomas Saint-Léger, on vous retrouve toute la semaine sur les routes du Tour du Rwanda.
On va prendre de la hauteur dans Mondial Sport avant de parler de basket africain. Eh bien, un regard sur le All-Star Perche. On parle de saut à la perche. Les meilleurs perchistes du monde avaient rendez-vous aujourd'hui à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, pour donc ce fameux All-Star Perche, une compétition organisée par Renaud Lavillenie, tout simplement le recordman du monde de la spécialité, le français blessé qui n'a pas pu sauter, mais Frédéric Suteau, le Clermontois, il était sur place, évidemment. Eh bien, il va nous démontrer que la fête n'en a pas été moins réussie avec de sacrées performances à la clé.
Cinq 5m93 pour Piotr Lisek, le Polonais, et Sam Kendricks, l'Américain, poussé par les décibels de la sono et les plus de 3500 spectateurs de la Maison des Sports. Il fallait les voir se congratuler tous les deux. Ils ont signé tout simplement la meilleure performance mondiale de l'hiver, répondant à distance au prodige suédois Mancho Duplantis, qui, la veille aux États-Unis, avait passé une barre de 5m92. On a cru un moment que le Brésilien Thiago Braz, champion olympique en 2016, allait se mêler à la bagarre à Clermont-Ferrand et nous refaire le coup de Rio, mais il a calé à 5,93. Un concours de haute volée, en tout cas. Renaud Lavillenie, blessé aux ischio-jambiers, n'a pas pu y prendre part, mais le Français a tout orchestré, son all-star perche. Il arborait un large sourire quand le rideau est tombé.
C'était au-delà des ambitions que je pouvais avoir par rapport au plateau du jour. Deux concours de haut niveau et les meilleurs du monde. Enfin, on passe une superbe après-midi et ça, c'est la plus belle des satisfactions.
C'est la Mecque de la perche, plus que jamais. Ça a été Donetsk il y a quelques années, maintenant c'est Clermont-Ferrand, hein, c'est installé.
C'est compliqué pour moi de l'affirmer, mais honnêtement, je pense que oui, l'objectif a été de pouvoir devenir vraiment l'endroit immanquable chaque année pour sauter à la perche. Et puis là, une fois de plus, il me donne raison et ça, c'est quelque chose qui est très très positif.
Renaud Lavillenie, qui détient le record du monde de la perche, 6m16, et qui détient aussi le record du All-Star Perche, 6m02, lors de la première édition en 2016. Le All-Star Perche, c'est un état d'esprit. Écoutez ce qu'en dit Axel Chapelle, qui a franchi dimanche 5m70.
C'est Renaud qui organise et Renaud, il sait ce dont les athlètes ont besoin et donc il nous met dans les meilleures conditions pour être performant le dimanche, quoi. Et il y a les meilleurs.
Il y a les meilleurs, hommes et femmes, avec deux pistes, deux sautoirs en parallèle, à tour de rôle, le concours féminin, le concours masculin. Celui des filles a été de toute beauté. Anzelika Sidorova, la Russe, a gagné avec un saut à 4m81, une barre qu'a aussi franchi Angelica Bengtsson, nouveau record de Suède.
L'objectif aujourd'hui, c'était quand même un sauté 81 pour récupérer le record national. Ça fait tellement de bien.
Ninon Guillon Romarin, elle, a tenté, mais raté, 4m81, peu importe, avec un saut de 4m73, elle a amélioré le record de France en salle, sublimé par l'ambiance.
Forcément, il y a de très belles performances parce qu'on est tous prêts, on a tous qu'une envie, c'est de performer. On est porté par le public, il y a eu l'UNSS, il y a eu des jeunes qui sont venus. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un beau soutien, ceux qui ont sauté les jours précédents sont venus voir aujourd'hui, et inversement, donc on y était aussi vendredi pour voir les plus jeunes, et c'est important que ça crée ça chez les jeunes aussi, mais c'est peut-être ça qui donne de cet entrain à cette compétition.
Ninon Guillon Romarin, qui aura sa carte à jouer pour une médaille le week-end prochain au championnat d'Europe d'athlétisme en salle à Glasgow en Écosse.
Et des Europes en salle que ne disputera pas Renaud Lavillenie, qui est donc forfait sur blessure. On passe comme promis au basket et Martin Guest sur la création d'une compétition NBA en Afrique. On a commencé à en parler hier.
Et oui, Amadou Galofa, le vice-président de la NBA, qui nous a expliqué donc hier qu'il s'agirait surtout d'une aide logistique et financière pour renforcer l'Africa League, une compétition de clubs continentale. Une compétition NBA qui sera co-organisée par la FIBA, la Fédération Internationale de Basket, et une organisation que nous a détaillée Alphonse Billet, le secrétaire général de la FIBA Afrique, qui répond à Emmanuel Kofi.
Nous allons organiser des éliminatoires à partir des clubs champions, comme un peu au football, et on retiendra les 12 meilleures équipes qui vont participer à cette compétition que nous appelons la BOL. La BOL, c'est le Basketball Africa League. Nous avions contacté la NBA pour que nous essayions d'avoir une ligue de clubs champions vraiment intéressante, de top niveau, etc., qui va être gérée par la NBA.
Est-ce qu'on peut parler de création, de fait, d'une super ligue avec de grosses franchises?
Non, il ne s'agit pas de franchise. C'est la création des équipes beaucoup plus fortes, mais il ne s'agit pas de franchise. C'est quoi la différence? La franchise, c'est que vous avez des équipes qui sont créées de toutes pièces dans un pays, qui ne participent pas au championnat national, mais qui jouent dans un championnat intercontinental, par exemple. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit tout simplement que chaque fédération nationale aura un champion et ce sont ces champions qui vont s'inscrire pour participer à cette ligue que nous appelions au début Afro League. Nous allons faire des éliminatoires d'abord sur les 54 pays et les 12 meilleures équipes seront retenues pour jouer la partie finale et cette partie finale sera un championnat. Et ce championnat, ce sera un championnat qui sera géré par la NBA. Avec la FIBA, toute la partie technique, c'est-à-dire les arbitres, etc., etc., sont le domaine de la FIBA. Toute la partie administrative, promotion, financière, etc., est du domaine de la NBA. Au niveau de la formation des arbitres, au niveau de la formation des coachs, au niveau de la formation de la gestion des clubs, la NBA va aider ces fédérations à pouvoir aider ces clubs à pouvoir mettre tout cela en place. Et la FIBA également. Nos arbitres seront en partenariat avec certains arbitres de la J-League, de la deuxième ligue à NBA. Nos entraîneurs bénéficieront de la formation de certains entraîneurs américains, etc., pour permettre que le niveau technique de nos équipes s'améliore. Et je pense que, sincèrement, c'est à ce niveau, nous allons gagner énormément. Mais c'est pour cela qu'en fait, si vous voulez, on dit que c'est une compétition NBA, parce que la NBA vraiment est décidée à s'investir totalement dans l'organisation de cette compétition, avec du personnel, avec tous les moyens qu'elle mettra en pratique, un peu à l'image de ce qu'elle fait un peu aux États-Unis, en commençant doucement. Nous partons avec 12 équipes pour le moment, et petit à petit, je crois que le nombre des équipes va augmenter. Mais la base que vous devez retenir, qu'on doit retenir, c'est que ce sont les clubs champions qui participent à cette compétition. Ce ne sont pas des franchises bloquées.
Alphonse Billet, le secrétaire général de la FIBA Afrique. Martin Guèze, pour terminer cette émission, on prend la direction du Palais des Sports de Trècheville à Abidjan, où se terminent les qualifications pour le Mondial de basket.
Et l'enjeu du week-end, c'était ces deux derniers tickets à aller chercher. Et le prix de sésame est assuré pour le Sénégal, qui s'est mis à l'abri dès vendredi face au Rwanda, avant de battre le Mali hier et de finir son carton plein avec une belle cerise sur le gâteau et une victoire de prestige face au Nigeria. Youn Gourlay était au bord des parquets pour prendre la température des Lions et a pu constater la bonne santé du basket sénégalais.
Tambour battant, c'est l'expression qui résume sans doute le mieux le week-end de haut vol des Sénégalais sur le terrain et dans les tribunes.
Dès le début à la fin, on tape les tam-tam et puis on ambiance, ça passe.
Et c'est grâce à vous alors qu'ils gagnent.
Ah mais bien sûr, eux ils ont dit ça. Sans les tam-tam, ils ne peuvent pas aller loin. Donc avec les tam-tam, ça le motive aussi, c'est bon.
Les Lions ont tout simplement joué leurs trois matchs à fond malgré la qualification pour le Mondial déjà obtenu vendredi. Victoire contre le Rwanda, le Mali et même le leader nigérian cet après-midi. Pour l'arrière Lamine Sambe, c'était la moindre des choses.
Par rapport à notre ambition et par rapport au peuple sénégalais qui est derrière nous, on se devait de faire un match sérieux aujourd'hui pour avoir la victoire, quoi.
La cinquième qualification de l'histoire du Sénégal pour le Mondial n'est pas une surprise, mais pour le président de la fédération, Babacar Ndiaye, c'est toujours un très bon signe.
C'est pas une petite chose la qualification à la Coupe du Monde. Nous qui sommes à l'intérieur de l'équipe, nous qui vivons les compétitions, sont combien c'est difficile le haut niveau. Donc nous serons 5 pays africains à aller en Chine. On fait partie de ces 5 pays africains, c'est important. Chez les filles, on était 2 pays africains. On était avec le Nigeria. Et au JO, il y avait chez les filles une seule équipe. Et le Sénégal était le pays qui représentait le continent africain à Rio. Je pense que c'est important. Ça prouve que le basket, notre basket se porte bien.
Les regards sont désormais tournés vers la Chine, pays hôte de cette Coupe du Monde cet été. Abdourahman Ndiaye Adidas, l'entraîneur des Lions, espère que ces 6 mois de préparation se feront dans la bonne direction.
C'est déjà magique, la Coupe du Monde. Le mot Coupe du Monde, c'est magique. On fait partie des meilleures équipes qui vont représenter l'Afrique. Il faut que, j'allais dire, toutes les composantes, aussi bien la fédération que l'État du Sénégal, que les sponsors, que les joueurs, que nous-mêmes, soient concernés par ce projet-là. Parce qu'il faut effectivement mettre en place une très bonne équipe qui essaiera de défendre les couleurs du pays comme il faut. Et puis, il faut s'en servir. On est qualifié en Coupe du Monde, est-ce que c'est une fin en soi? Qu'est-ce qu'on fait de la Coupe du Monde? Quelle est la signification que l'on donne à notre qualification? Comment on peut s'en servir pour revigorer le basket à l'interne? Ça, ce sont des questions qu'il faut poser.
Bien préparer l'échéance pour faire encore mieux qu'en 2014, les Lions avaient alors atteint les 8e de finale.
Et Youn Gourlay, notre homme à tout faire du soir qu'on retrouve au Palais des Sports d'Abidjan. Bonsoir Youn, un match
bonsoir,
en ce
Martin.
Moment, la Côte d'Ivoire qui affronte le Mali et qui doit absolument gagner de 12 points. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de le faire?
Oui, ils l'ont presque fait Martin, il reste encore une poignée de secondes. Les Ivoiriens mènent contre les Maliens 67 à 49. La victoire est très attendue ici, mais tout le monde a le regard sur le score. Il leur fallait l'emporter avec 13 points d'avance, une barre que les éléphants ont rapidement franchi dès le deuxième quart-temps. Les Ivoiriens ont tout de même dû s'employer face à de valeureux Maliens, bon dernier de la poule, mais la qualification pour le Mondial dans l'ultime match de la poule ajoute un peu de magie à cette soirée. Et le public ne s'y trompe pas, le Palais des Sports de Trècheville est plein à craquer, vous l'entendez peut-être. La Côte d'Ivoire attend cela depuis 2010, elle participera donc à sa 4e Coupe du Monde et ce sera la toute première pour l'entraîneur italien Paolo Davide Povia. De leur côté, les Camerounais, 3e du groupe E, ont suivi ça de loin et doivent être terriblement dépités ce soir.
Merci beaucoup Youn, les 5 pays qualifiés pour le Mondial, donc ce sera Tunisie, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire donc.
On est complet, merci, c'est terminé pour ce soir, grand merci à Alice Ménard, à bientôt.